Bonjour, bienvenue. Jusqu'à 15h, vous êtes à l'écoute des mondes sur Espace 2. Nous parlerons beaucoup aujourd'hui d'un instrument rare, le taragote. C'est un peu le cousin balkanique du saxophone soprano. On l'entend essentiellement dans les musiques de la région du Banat, en Roumanie, où il s'est épanoui au début du XXe siècle. Il fait l'objet d'un disque assez étonnant, mais très beau, publié cette année sous le label suisse VDE Gallo. Une rencontre un peu insolite avec l'orgue, c'est l'œuvre de Samuel Freiburghaus au taragote et de Thilo Muster à l'orgue, et tout à l'heure précisément, nous en parlerons avec Thilo Muster. Et là, à l'instant, eh bien justement, deux de ces géants qui ont ouvert la voie au début des années 70 et qui ont largement contribué à révéler au monde les beautés des musiques des campagnes de Roumanie. À la flûte de Pan, au tout début de sa carrière, à ce moment-là, il y avait Georges Zamfir. Et à l'orgue, un des pionniers des musiques du monde en Europe, le tout premier à les avoir d'ailleurs présentés à la radio en Suisse romande, la radio qui s'appelait encore Radio Sautant à cette époque, c'était bien sûr le regretté Marcel Cellier. Ce duo, flûte de Pan et orgue, ça a été pour beaucoup une révélation. Grâce à la magie du disque, ça a fait naître des vocations dans le monde entier, et notamment celle d'un enfant qui se voyait déjà organiste professionnel à l'époque. Il l'est d'ailleurs devenu, il s'appelle Thilo Muster, il est né en Allemagne, mais pendant plus de 10 ans, de 1994 à 2005, il a été l'organiste titulaire de la cathédrale Saint-Pierre à Genève. Thilo Muster habite aujourd'hui à Bâle et il y a presque une année, au mois de juin 2014, il y a enregistré un étonnant duo, non pas avec une flûte de Pan, ça avait déjà été fait, mais avec un instrument assez mal connu, une sorte de cousin en bois du saxophone soprano. Ça s'appelle le taragote.
Espace 2, l'écoute des mondes.
Le taragote a été inventé à la fin du 19e siècle à Budapest, en Hongrie, par deux facteurs d'instruments, Joseph Schunda et János Stovasser. À la fin de la Première Guerre mondiale, un musicien roumain qui avait servi dans l'armée hongroise amène cet instrument dans le Banat, tout à l'ouest de la Roumanie. Là, il l'utilise pour animer les soirées de danse et ça fait sensation. Alors, au moment où ailleurs, dans les orchestres et les fanfares, le taragote est rapidement délaissé au profit du saxophone, là, dans le Banat, il trouve sa terre d'élection. La plupart des thèmes qu'on va entendre ici, à partir de maintenant, sont donc empruntés au répertoire populaire de cette région et des Balkans. Mais les arrangements, eux, sont évidemment originaux. Au taragote, mais aussi parfois à la clarinette, au corde bassée ou à diverses flûtes des Balkans, il y a le Suisse Samuel Freiburghaus. Et à l'orgue, Thilo Muster, ex-titulaire de la cathédrale Saint-Pierre à Genève. C'est lui, notre invité du jour à l'écoute des mondes. Alors je vous demande d'excuser le brouhaha que vous entendez derrière notre conversation. C'est que ça se passait à Berne, dans un café. Ça nous paraissait un petit peu plus adapté pour parler de musique populaire et du Banat par rapport, par exemple, à un studio d'enregistrement ou à une église.
Ma première rencontre avec la musique de l'Est, disons, c'était un film, en fait, quand j'avais à peu près 13 ou 14 ans. Vous le connaissez peut-être, c'est un film qui était, bon, je crois, assez connu. C'est un réalisateur australien qui s'appelle, je crois, Picnic at Hanging Rock. Et donc, la seule chose que je retiens de ce film, c'était la musique. On utilisait une doina jouée par Georges Zamphir avec l'accompagnement de Marcel Cellier. Donc, il y avait déjà l'orgue, n'est-ce pas ? Et ce film avait une atmosphère un peu étrange et mystérieuse, et cette musique collait tellement bien, et ça m'a vraiment frappé, et j'ai été très attiré par cette musique. C'était un peu comme un choc esthétique. Et après, on a essayé de trouver le disque. C'était donc, je crois que c'était le deuxième volume des disques Flûte de Pan et Orgue. Mes parents ont fini par trouver ça. J'ai écouté ça toute la journée, je trouvais ça formidable.
Excusez-moi, Thilo Muster, là vous étiez déjà passionné d'orgue, vous jouiez déjà de l'orgue ?
Oui, ça c'était, disons, j'avais commencé de l'orgue quelques années avant, et c'était déjà, disons, j'avais déjà l'intention de devenir musicien professionnel. C'était aussi quelque chose qui m'attirait énormément, malgré que dans ma famille il n'y avait aucun précédent, je veux dire. Et donc, j'ai toujours écouté cette musique. Après, j'ai un peu oublié, bien sûr. Et quand j'ai rencontré ma femme, j'ai vu que mon beau-frère et ma belle-sœur avaient un groupe de musique qui jouait de la musique tzigane, de la musique occitane, musique simili, c'est peut-être c'est quand même assez connu en Suisse. Et bon, je les ai tout le temps entendus. J'ai retrouvé cette musique et d'autres musiques. Et j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour la liberté de leur jeu, pour la musique qui parle directement aux gens, les gens qui sont enthousiasmés sans forcément avoir des notions de cette musique, n'est-ce pas ? Dans la musique classique, il faut toujours avoir une connaissance pour vraiment apprécier. Et là, ça parle directement à n'importe qui. Et j'étais toujours un peu jaloux, je dois dire, avouer franchement. Et après, donc, j'ai commencé à intégrer. J'ai vu une composition de mon beau-frère, Mark Enzenberger. Et j'ai trouvé que ça pourrait bien s'adapter à l'orgue. J'ai joué à l'orgue dans des concerts. Et un organisateur, il a bien aimé ça. Il a dit, tu pourrais pas me faire une fois un concert avec quelqu'un d'autre où tu fais de la musique tzigane, un peu comme ça. Alors, je ne savais pas trop. Mais je trouvais que c'était une très, très bonne idée. Et j'ai demandé à mon beau-frère s'il n'avait pas une idée, s'il connaissait quelqu'un. Et là, il m'a proposé Samuel, qui était en train justement de chercher quelqu'un. Et voilà, on s'est rencontrés. Et ça a marché du premier coup. Thank you. Samuel, il a commencé la clarinette quand il était jeune, donc tout à fait classique, avec Thomas Friedli. Je crois qu'il était professeur à Genève. Et à un moment donné, c'est un peu comme moi, n'est-ce pas? Il a entendu un groupe de musiciens roumains et c'était le coup de foudre. Et c'est un peu comme ça avec cette musique, je crois. On tombe amoureux d'un coup et on est poursuivi jusqu'à la fin de ses jours. Donc lui, il s'est dit, il faut que je fasse cette musique, il faut que j'apprenne cette musique. Alors il a commencé à jouer un peu comme ça pour lui. Après, il a trouvé des maîtres, il a voyagé, il a été dans ces pays, et c'est les rencontres en fait, qui font qu'on approche un certain répertoire ou un autre. Pour moi, c'est ce qui manque parfois un peu dans la musique classique, où on a tendance, surtout dans le monde de l'orgue, il faut connaître tellement de styles et tellement de choses, savoir comment on fait les ornements, dans quelle musique et quel registre tirer, dans quel genre de style, qu'on oublie un peu qu'il faut vraiment communiquer directement avec le public. Et moi, je trouvais ça très important. Et Samuel, il l'incarne de cette manière. Il joue du cœur, ça va directement. Il fait une note et c'est de la musique, n'est-ce pas? Et quand on a joué ensemble, ça marchait tout de suite, malgré mon background classique. Mais on a pu tout de suite se trouver. Et évidemment, après, donc, il y a eu une longue période où on a élaboré un programme. Ça a pris du temps, mais l'entente était là dès la première note.
Thilo Muster, vous avez passablement voyagé comme soliste, comme concertiste, mais il y a un moment de votre vie où vous êtes plus ou moins sédentarisé, et ça se passe en Suisse romande, c'est entre 1994 et 2005, vous êtes organiste à la cathédrale Saint-Pierre à Genève. Genève, c'est vraiment la ville internationale en Suisse romande, celle des communautés. Il y a là, par exemple, les ateliers d'ethnomusicologie qui, depuis longtemps, ouvrent des portes sur la musique du monde. Vous, cette influence internationale, vous y étiez sensible à ce moment-là? C'est quelque chose qui vous a permis, par la suite, à aborder ce répertoire, ou c'était en fait une coïncidence?
Non, c'est vrai que quand j'étais à Genève, j'avais aussi été directeur artistique des concerts spirituels. Et là, nous avons eu des projets déjà qui, je veux dire mélangés parce que j'aime pas ce mot, donc, mais qui mettaient ensemble différentes musiques. Par exemple, nous avions eu un projet avec la musique traditionnelle arabo-andalouse et la musique d'orgue de l'Espagne. C'était il y a très longtemps déjà, avec le luthiste, le joueur de oud, Marc Lopuit. Et c'était déjà très... On voyait déjà ces deux musiques différentes, mais il y a quand même un fondement commun dans cette musique, c'est la modalité en fait. Et nous avons eu aussi d'autres projets de ce genre. Oui, c'était donc quelque chose qui n'a jamais vraiment arrêté dans ma vie. J'ai toujours eu cette recherche de mettre des choses qu'on croit s'exclure ensemble.
Alors tout à l'heure, Thilo Münster, vous avez à plusieurs reprises fait allusion à la spontanéité des musiques tziganes, des musiques des Balkans, à ce côté libre, libérateur aussi, où le public se reconnaît directement. Pour la plupart des musiciens tziganes qui la pratiquent, cette musique, elle est de tradition essentiellement orale. On chante, on entend, on joue, on apprend très tôt. L'écriture, c'est un petit peu, j'allais dire, pour les arrangeurs, ceux qui veulent justement retranscrire, adapter ça. Alors on a évidemment le cas de Béla Bartók. Vous vous situez où entre Béla Bartók et les musiciens de tziganes?
Bah évidemment, je ne suis pas un musicien tzigane. Et au début, n'est-ce pas, quand on approche ce répertoire, alors moi en tout cas, je voulais surtout pas faire d'erreur de style. Je voulais rester dans le style et je me donnais beaucoup de peine à faire exactement comme il faut. Mais après un moment, on remarque que c'est peut-être une bonne démarche, mais ce n'est pas la démarche finale. Il y a un moment où on doit retrouver la liberté quand on connaît le style et on doit aussi pouvoir risquer de faire quelque chose qui est peut-être, entre guillemets, pas authentique, mais si c'est cohérent en lui-même, ça donne quelque chose, parce que ce n'est pas non plus intéressant d'entendre une copie exacte de ce que fait un accordéoniste roumain sur un orgue, n'est-ce pas ? Ça n'a aucune raison d'être. Et d'une part, donc, il y a une grande liberté dans ce répertoire, mais d'autre part, il y a aussi une rigueur, par exemple, pour les ornements. Il faut bien écouter, et c'est très subtil. Et quand on entend, par exemple, l'accordéoniste, donc c'est quand même l'instrument qui est le plus proche de l'orgue, dans la musique roumaine, par exemple, quand on entend la richesse, la subtilité, la finesse des ornements, c'est vraiment un grand art. Et ça ressemble un peu aussi à l'ornementation de la musique baroque, où finalement, on doit un peu arriver à la même liberté. On doit connaître le style, connaître les ornements, et à la fin, trouver une certaine liberté et une spontanéité. De nouveau. Et ce répertoire, évidemment, je ne l'ai pas appris par des partitions. Bien sûr, on se fait des partitions, on se fait des espèces de... Ce n'est pas vraiment des partitions, mais c'est comme des esquisses, oui, des aides-mémoires, oui. Et il y a toujours les pièces qu'on joue, ce n'est pas des œuvres fixées. Vous savez bien, il y a toujours des mille versions d'une œuvre. Donc, quand j'approche une nouvelle pièce, par exemple... Donc maintenant, on a moins besoin d'aller voir les gens. Si vous allez sur YouTube, vous trouvez des merveilles, n'est-ce pas? Vous pouvez entendre des mariages entiers, disons 6 heures d'enregistrement, des choses comme ça. Donc on peut s'imprégner de ce style. Donc on voit plusieurs versions. On en copie peut-être une, mais après on voit bien, non, j'aimerais mieux plutôt changer ça ou ajouter ça. Et là, on a une grande liberté qu'on n'a pas vraiment dans la musique classique. On a essentiellement une mélodie quand on a une pièce. Et cette mélodie, on l'arrange comme on veut, n'est-ce pas ? Disons, il y a un rythme qui va avec, un accompagnement qui est dans le style, plus ou moins, mais il y a toujours mille possibilités. On rajoute une partie, on répète une autre partie, on la colle ensemble avec une autre pièce, on met une autre harmonie, on met un autre rythme, on fait plutôt un accompagnement genre cymbalum ou genre violon. On invente une deuxième mélodie et ça, c'est magnifique. Pour un musicien classique, ça complète très bien ce qu'il fait d'habitude et ça m'a aussi donné plus de liberté dans l'interprétation de la musique classique. C'est une sorte de prélude, oui. Où l'orgue joue seul sur des notes tenues et à la main droite il y a une mélodie et on se demande, parce que normalement l'orgue on enfonce la touche et le son est là et il reste comme il est et là le son varie et
le son est évolutif effectivement, ah, il y a une touche et le son change
et donc il y a peut-être des gens qui se demandent comment ça a été fait à l'orgue. En fait Je joue sur un jeu, donc je tire un jeu et ça fait une rangée de tuyaux qui sonnent. Et comme c'est fait mécaniquement, on peut retirer le jeu un petit peu à un demi et ça fait rentrer la moitié de l'air seulement dans le tuyau et ça fait donc, ça change donc le son, ça fait baisser un peu la note et comme ça on peut faire illusion, on fait un peu illusion d'avoir un instrument avant.
Le duo Taragot und Orgel Tarago, le cousin balkanique et un peu oublié du saxophone, instrument en bois alors que le saxophone s'est développé en métal, mais c'est l'instrument vraiment du Banat, l'instrument qu'on trouve en Roumanie dans les communautés de Tziganes, ici donc par Samuel Freiburghaus. Thilo Must, tout à l'heure vous évoquiez le fait que chaque orgue est différent et donc à chaque fois on appréhende le répertoire, le concert d'une manière différente. Est-ce que ce répertoire-là, Thilo Must, on arrive effectivement à l'adapter à peu près à n'importe quel orgue de n'importe quelle église ou il faut quand même un certain type d'instrument ?
Bon, il y a bien sûr des instruments, comme j'ai dit, l'orgue, les orgues sont très très différents. Donc, disons, il y a un répertoire immense, il y a une histoire, disons, depuis le Moyen-Âge en fait, jusqu'à nos jours. Chaque pays, chaque style a développé un autre instrument, mais il y a quand même un certain instrument plus ou moins standard qu'on peut très bien utiliser pour cette musique. Parce que justement, on a beaucoup plus de liberté, on peut adapter, si on ne peut pas prendre cette registration, on prend une autre. Mais bon, évidemment, il faut qu'il soit à 440, parce qu'avec le taragote, il faut quand même que ça corresponde. Et il faut qu'il ne soit pas accordé à un tempérament trop inégal, malgré que j'ai déjà joué, disons, quand on a fait le projet avec la musique arabo-andalouse, j'étais aussi sur un orgue qui avait un tempérament très inégal. Et on peut aussi s'arranger, n'est-ce pas? On choisit les pièces d'une autre manière. Mais ce programme est assez passe-partout, je veux dire, quand même.
Vous le disiez tout à l'heure, hein, on a 1000 possibilités et on s'offre le droit d'en rajouter, de changer des choses. Est-ce qu'au moment du concert, il reste encore une part d'improvisation? Vous gardez cette porte ouverte également? Et si oui, à quel niveau? Est-ce que c'est plutôt au niveau de l'ornementation pure ou est-ce qu'il y a vraiment des plages, un petit peu comme dans le jazz, des moments où on prendrait le risque de lâcher les chiens?
Oui, oui. Alors, dans les concerts, c'est jamais la même chose. J'ai remarqué, bien sûr, les pièces ont un arrangement, on a son arrangement plus ou moins fixé. Il y a donc la liberté de jouer plus lent, plus rapidement, plus vite, avec une autre expression, rajouter des ornements, enlever des ornements. Et il y a aussi des plages qui sont nettement improvisées. Alors vraiment, disons, sur le disque, nous avons vraiment improvisé. Il y a des endroits où c'était d'ailleurs assez difficile pour le montage, parce que comme les improvisations n'étaient vraiment pas préparées, vous avez trois versions complètement différentes, alors vous devez choisir laquelle prendre et vous ne pouvez pas vraiment les mélanger. Mais c'est ça justement qui fait très plaisir. On peut jouer ce programme, on peut le jouer 20 fois, c'est jamais la même chose et on apprend toujours quelque chose de nouveau. Ben, ça change complètement parce que l'organiste n'a pas souvent l'occasion de jouer le même programme. Le pianiste, il peut jouer son programme 120 fois parce qu'il y a toujours un piano qui est plus ou moins standardisé, tandis que les orgues sont partout très différents et rarement on peut jouer le même répertoire dans des concerts qui se succèdent. On peut vraiment approfondir là, n'est-ce pas?
L'écoute des mondes, espace 2.
Samuel Freiburghaus est au Tharagoth et vous, Thilo Münster, vous êtes à l'orgue. Ce disque, ces duos qui sont parus chez VDE Gallo, c'est tout un répertoire que vous avez mis au point ensemble, Samuel et vous. Vous avez eu déjà l'occasion d'aller le jouer dans les lieux d'origine de ces musiques? Est-ce que vous êtes déjà allé jouer dans les Balkans?
Non, je n'ai jamais voyagé dans ces régions, malheureusement. J'ai des amis roumains qui me disent « Oui, il faut venir, ça sonne comme chez nous. » Ça me fait très plaisir, mais je ne sais pas si c'est quelque chose... L'église représente peut-être autre chose encore. Et bon, il faut dire, en Roumanie, les gens sont orthodoxes, donc il n'y a pas d'orgue dans les églises. Donc il faudrait aller là où il y avait les Allemands. Là, il y aurait éventuellement une possibilité. Disons, ça serait tout à fait quelque chose que j'envisagerais avec plaisir, bien sûr. Mais pour l'instant, on reste ici et il y a encore tellement de possibilités à jouer ici.
Quand vous vous retrouvez devant un orgue, devant des grandes orgues ou des plus petites, à chaque fois, ça demande un énorme effort d'adaptation. Combien de temps on met pour s'habituer à un orgue quand on est soliste et qu'on voyage ?
Ça dépend évidemment de l'orgue et de l'instrument et du répertoire joué. Et aussi, j'ai quand même remarqué, quand on connaît très très bien le répertoire et on l'a joué souvent, on met moins de temps. Je constate avec ce programme, on l'a joué souvent et je suis beaucoup plus à l'aise, je suis plus libre justement. Mais normalement, quand je donne un concert classique, j'arrive une journée entière au moins avant le concert, voire deux journées avant le concert, selon la complexité du programme. Et Samuel, il arrive plus tard, évidemment. On répète le jour du concert, en général. Et c'est chaque fois une aventure, parce qu'il y a aussi l'acoustique à considérer. Et là, c'est vrai, pour un tel programme où il y a beaucoup d'accompagnements très rythmiques, où ça doit quand même rester clair, ça ne se prête pas à n'importe quelle acoustique. Et souvent, les acoustiques sont un petit peu trop généreuses. Donc il faut avoir un instrument assez grand, parce que le Tharagoth, la combinaison avec l'orgue, c'est vraiment idéal. Le Tharagoth a une puissance extraordinaire. Il peut aussi jouer très, très doucement. Et normalement, quand on fait de la musique de chambre avec un orgue, on doit toujours choisir très très prudemment ses jeux. On est très vite trop fort, alors on a un choix de sonorité assez limité à sa disposition. Et tandis qu'avec le Tharagoth, je peux prendre le jeu le plus doux, au chuchotement, le presque inaudible. Je peux aller jusqu'au tutti de l'orgue et le Tharagoth suit. Parce qu'en fait, c'est un instrument pour jouer dehors aussi. Et là, on peut vraiment montrer toute la palette sonore de l'instrument. C'est ce qui est aussi rarement possible avec d'autres instruments.
Thilo Muster, lorsqu'on parle de musique pour orgue, et peu importe maintenant orgue avec un autre instrument ou non, forcément on cible un certain type de public, on vise les églises, on vise les temples. Est-ce que ce type de musique permet d'amener d'autres gens dans des lieux sacrés comme le temple ou l'église? Ou est-ce que vous avez l'impression que malgré tout, pour le moment, c'est encore un public essentiellement classique qui vous suit et qui se permet comme ça un petit crochet?
Oui, je crois que c'est les deux choses. Donc, j'espère en tout cas. Donc, le public classique, il est très... Très, très souvent, les gens sont enthousiasmés, ils sont très contents d'entendre ce répertoire. Et parfois, pour eux aussi, c'est une découverte, malgré que cette musique est quand même devenue très connue ces dernières années. Mais j'espère aussi pouvoir attirer un autre public, des gens d'autres horizons. C'est toujours ça qui m'intéresse. En fait, aussi, quand je veux mettre les choses ensemble, quand je veux mettre les répertoires ensemble, j'aime quand il y a des jeunes et des vieux dans un concert qui s'amusent en même temps. J'aime quand il y a des jeunes qui écoutent la musique classique. J'aime quand il y a des vieux qui écoutent tout un autre répertoire. C'est quelque chose qui est un peu en train de disparaître. Et tous les moyens sont bons pour rassembler les gens parce que, disons, la ségrégation des genres, surtout aussi de l'âge des gens, n'est-ce pas ? Chaque âge écoute une autre musique et il n'y a plus aucune chose en commun. Et c'est dommage, n'est-ce pas ? C'est bien quand il y a, comme quand il y a des mariages, par exemple, il y a des jeunes et des vieux, et quand des musiciens jouent, tout le monde est là et tout le monde peut partager ensemble. Pas les uns, ils sont là avec leurs écouteurs et les autres écoutent autre chose.
Vous partagez un peu, Thilo Muster, cette opinion qu'ont beaucoup d'amoureux des musiques des Balkans et des musiques du Banat, justement, que le taragot, c'est le cousin malheureux du saxophone. On en parlait tout à l'heure, le saxophone a connu un essor extraordinaire grâce aux fanfares et ensuite au développement du jazz. Le taragot, il est né au même moment et puis il est resté comme oublié. Pour vous, c'est une injustice qui doit être réparée, notamment avec ce genre de répertoire?
Non, je ne trouve pas que c'est une injustice. Au contraire, le saxophone, c'est tellement généralisé. Mm-hmm. Évidemment, il est aussi très universel, le saxophone. C'est un instrument qui se prête à tout. Mais le taragot, il est tellement particulier. Il a une couleur tellement intense et sombre. Et il parle aussi pour cette musique, n'est-ce pas ? Il reste associé avec un répertoire et je trouve que c'est plutôt un avantage. C'est pas une injustice parce que c'est pleinement compréhensible, parce que les gens qui s'efforcent de jouer du taragot, c'est vraiment très difficile. C'est un instrument qui n'est pas très développé techniquement et qui est tout simplement, c'est très difficile de jouer juste. Si c'est trop haut en haut, c'est trop bas en bas et vice-versa. Il n'a pas une étendue extrême. Et en plus, il est difficile de trouver des bons instruments parce qu'il y a très peu de facteurs. Donc, il y a plein de difficultés qui s'accumulent. Et Samuel, j'admire vraiment avec... Il faut avoir toutes sortes d'astuces et de trucs pour arriver à tirer un son, un beau son et juste et de cet instrument vraiment difficile.
La rencontre de l'orgue et du Tarragot, mais pas uniquement Thilo Muster. Vous êtes à l'orgue, il y a Samuel Freiburghaus au Tarragot et un percussionniste, Nerun Aliyev, à Derbouka. Et je m'interroge parce que ce choix du Tarragot et de l'orgue ensemble, on l'a dit, c'est un mariage parfait de la nature même du Tarragot, qui est un instrument puissant fait pour jouer dehors. Mais le choix du Derbouka, dans une église notamment, parce que la plupart du temps c'est là que se trouvent les orgues, ça pose beaucoup de problèmes, de questions, de résonance, du son qui part et qui revient pour l'auditeur qui est assis dans l'église, suivant qu'il soit assis près de la nef ou au contraire de l'autre côté de l'édifice. Il y a une réverbération, du retard, des décalages, des problèmes de phase, tout simplement, qu'on n'a pas avec l'association Tarragot et Orgue. Pour le disque, je comprends bien comment on peut le faire. C'est une question de prise de son. Pour le public, est-ce qu'il y a une version comme ça en trio? Et si oui, comment est-ce que vous compensez ce problème purement acoustique?
Oui, d'abord, vous avez raison, nous avons joué notre programme en public, jusque-là, uniquement en duo.
D'accord.
Après, nous nous sommes dit, sur un disque, ça serait quand même bien d'avoir un peu de percussion pour diversifier un peu. Samuel connaissait Nerun et c'était aussi la même chose, n'est-ce pas? On répétait pas, disons, parce qu'on jouait tout de suite, on faisait toujours la musique. Et je veux dire, comme organiste, j'ai pas vraiment souvent l'habitude, disons, pas vraiment l'habitude ou l'occasion de jouer avec une percussion, et c'est absolument formidable. On se sent comme si on avait le vent dans l'eau, comme on dit, Rückenwind en allemand, n'est-ce pas? C'est formidable. Et avec lui, ça allait aussi tout de suite. On n'avait pas besoin de discuter. Et donc on a fait l'enregistrement, on a trouvé que les plages avec percussion étaient très réussies, malgré que c'est vrai qu'on a eu pas mal de problèmes pour l'enregistrement aussi, mais il faut aussi s'adapter, n'est-ce pas, c'est comme l'organiste qui doit s'adapter à l'acoustique, il joue plus sèchement ou d'une autre manière, plus lentement aussi parfois, quand l'acoustique est riche. Donc le percussionniste, comme il improvise, il favorisera les aigus au lieu de jouer les sons graves. Et il s'adaptera aussi. Et nous avons donc fait un concert pour présenter le CD avec notre percussionniste. Et c'était très, très réussi. Donc, nous envisageons de faire des concerts avec lui aussi. Mais, évidemment, il vaut mieux avoir une acoustique un peu sèche pour cela. Ça, c'est clair. We'll be right back.
L'écoute des mondes, Vincent Zanetti.
Le chant des Roms, Samuel Freiburghaus au Taragot, Thilo Muster à l'orgue et Nerun Aliyev à la percussion. C'était une fois encore extrait de ce CD Taragot und Orgel, Taragot et orgue, musique des Balkans, des Tziganes et des Juifs d'Europe de l'Est. C'est paru au début de cette année chez VDE Gallo et en bonus cadeau au CD, il y a également une plage vidéo. Tout à l'heure, pour nous parler de ce disque et surtout de cette première rencontre entre l'orgue et le taragot, notre invité était Thilo Muster. Et je vous rappelle qu'il a été pendant plus de 10 ans l'organiste titulaire de la cathédrale Saint-Pierre à Genève. Aujourd'hui, il se dédie à sa carrière de concertiste, il habite à Bâle. Ce duo avec Samuel Freiburghaus est une des facettes de sa carrière.